18, 21, Normandie.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Clément.
Donc, bienvenue. Merci au public d'être avec nous. Dernier conseil municipal de la mandature. Et nous avons comme secrétaire de séance, si vous le voulez bien, Monsieur Pascal Derville. Est-ce que cela appelle des oppositions, des abstentions ? Qui est pour ? À l'unanimité, je vous remercie. Nous avons trois pouvoirs. Monsieur Bouchaudon, à l'attention de Madame Annie Potin. Madame Corinne Foll pour Madame Frédérique Gaudioso. Et Monsieur Parmentello pour Madame Karine Huette. Je vais vous faire lecture du dernier procès-verbal qui a eu lieu le jeudi 29 janvier dernier, au cours duquel nous avons validé l'acquisition de la parcelle AK1 disposant d'un emplacement réservé au titre du PLU. Vous vous souvenez, c'est au bout de l'ancien Décathlon, vous savez, qui ne s'appelle plus l'ancien Décathlon, mais c'est pour faire un espace de mobilité. Nous avons validé la signature d'un avenant pour la convention d'adhésion au Conseil d'architecture et d'urbanisme avec le département d'Ille-et-Vilaine. Nous avons validé l'échange de parcelles dans le cadre du projet de lotissement à la Langue Boa. Nous avons proposé que la répartition des recettes des amendes de police soit orientée vers l'aménagement de la pratique cyclable et du cheminement piéton. Nous avons validé le versement d'une subvention exceptionnelle à l'association Famille Rurale pour l'organisation d'un voyage en Grèce. Nous avons validé des demandes de garantie d'emprunt et nous en reparlerons pour les projets des fonds de jardin. Nous avons engagé des dépenses d'investissement pour que nous puissions continuer à travailler avant le vote du budget. Et voilà. Je pense que... Attendez, j'ai peut-être... Ah non ! Nous avons validé la demande de subvention pour la création des vestiaires sportifs. Et nous avons validé un acompte de la subvention à la Caisse des écoles sur le budget communal. C'est exact, madame la comptable. Nous avons modifié le marché de travaux pour l'aménagement de la mairie sur quelques lots. Et nous avons fait des avenants pour le marché de la crèche. Enfin, vous avez validé une convention entre la commune et l'association Passemploi. Et nous avons validé l'avenant numéro 1 à la convention régissant l'organisation d'un service commun pour l'instruction des autorisations et des actes relatifs à l'occupation et l'utilisation des sols avec Saint-Malo Agglomération. Nous avons approuvé le rapport de la commission locale d'éval des charges transférée, qu'on appelle communément la CLECT, pour le passage des maisons France Service sur l'agglomération. Nous avons validé un avenant à la convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville, mais le prochain mandat nécessitera que cette délibération soit élargie, semble-t-il. Et ce coup-ci, on s'est arrêté là. C'était un gros conseil municipal en janvier, mais comme c'est souvent le cas, après les fêtes de fin d'année et pour entamer l'année dans des bonnes conditions. Est-ce que ce procès-verbal appelle des commentaires, des questions ? Non ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité ? Je vous remercie. Donc notre première délibération va être une délibération que Nicolas va piloter puisqu'il concerne le budget de la commune et l'approbation du compte financier unique de l'année 2025. Donc c'est un moment important puisque c'est le dernier compte CFU dit pour les anciens compte administratif plus compte de gestion de la mandature. Et vous pourrez découvrir, apprécier les éléments de précision que Nicolas vous apportera, mais qui seront symboliques de la qualité du pilotage financier qui a été déroulé tout au long de cette mandature et de cette année en particulier. Voilà mon cher Nicolas, je te laisse entrer dans le détail.
Merci Marie-France. Écoutez, bonsoir à tous. Je vais donc faire une petite présentation pour vous présenter le compte financier unique de la commune pour l'année 2025. C'est le bilan de l'année 2025 qu'on va élargir un petit peu en regardant les années précédentes et en faisant un petit bilan du mandat malgré tout, puisque c'est le dernier bilan de cette mandature. Alors à l'agenda, une rapide petit slide pour fixer un petit peu la situation économique 2025. Et puis, bah, comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant, on va passer en revue la section de fonctionnement et la section d'investissement ensuite. Côté situation économique, macroéconomique, en 2025, l'inflation a ralenti de manière significative. Elle s'établit à 1% après trois années de forte inflation, hein, 2,3 en 2024, 4,9 en 2023 et 5,2 en 2022, après le début de la guerre en Ukraine. Donc un net ralentissement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En 2024, le déficit public s'était élevé à 5,8% du PIB, après 5,5% en 2023, et en 2025, il devrait, alors on n'a pas encore les chiffres définitifs, il devrait atteindre 5,4%. 5,4, j'ai dit quoi ?
Ah oui,
ça, oui, 5,4% contre 5% dans le PLF. Voilà, l'État a un petit peu plus de mal que nous à tenir son budget. Alors, on va démarrer l'étude des chiffres. Je vais essayer de ne pas vous noyer. Hein. J'espère que c'est lisible à l'écran. On va démarrer par la section de fonctionnement. Je vais essayer de zoomer un petit peu, peut-être. Donc, j'ai surligné en rouge la ligne importante qui est le total des opérations réelles. Donc, en 2025, pour son fonctionnement, c'est-à-dire que pour toutes les opérations courantes d'entretien, de fonctionnement de la commune, nous avons dépensé 2 904 098 euros et 91 centimes. D'accord ? Notre prévisionnel s'élevait à 3 119 057 après une DM. Voilà, donc on a dépensé 13% de notre budget prévisionnel, sachant qu'en 2024, nous avions dépensé 2 821 539 euros et 63 centimes. Donc on a dépensé un petit peu plus, 3% d'augmentation du budget de fonctionnement, un petit peu plus également que l'inflation. Où est-ce qu'on a dépensé un petit peu plus ? On a dépensé un petit peu plus sur le chapitre 11, plus 29 152 euros et 0,9, une augmentation de... Non, on a baissé, pardon, que je dise pas de bêtises. On a baissé de 29 000, moins 29 000, en charge à caractère général. Par contre, on a augmenté notre masse salariale de 5%, avec 83 337 euros de plus, et 35 000 euros pour l'atténuation de charges que je vais expliquer ensuite. C'est quoi ces variations relativement importantes par rapport à 2024 ? Eh bien, au chapitre 11, la baisse de 29 000 euros se justifie majoritairement par une baisse du prix de l'électricité et du gaz à hauteur d'environ 20 000 euros. Sinon les dépenses ont été à peu près équivalentes à celles de 2024. Ça, c'est pour le chapitre 11. Pour le chapitre 12, donc la masse salariale, on a une hausse importante qui est liée, pour une part relativement importante, à un recours au service de mission temporaire du CDG, du centre de gestion, puisqu'on a eu des difficultés de recrutement. On a été obligé de pourvoir au poste, parce qu'on peut, au poste de l'accueil en particulier, pendant un temps assez long. Et ce qui, ben voilà, quand on fait appel au CDG, forcément, ça coûte un petit peu plus cher que lorsqu'on a un agent, on arrive à recruter un agent. Donc des difficultés de recrutement sur la compta, sur l'agent en arrêt de l'accueil. On a également une hausse de 15 000 euros liée à l'apprenti qu'on a pris à la cantine. Donc cet apprenti a commencé en 2024, mais pas sur une année pleine. Là, on avait une année pleine de l'apprenti sur la cantine. Les cotisations retraite, une hausse de 30 000 euros. Et voilà, une petite baisse sur les autres charges, mais négligeable. Enfin, on a une hausse des atténuations de produits. Hein, c'est le reversement de la taxe foncière sur les zones artisanales de combien on a dit 35 000 euros, lié au fait que l'agglo nous a réclamé cette taxe foncière sur 2 ans au lieu d'1 an. Donc on ne pouvait pas le savoir sans explication autre. Voilà, on attend un petit peu les explications. Donc, peut-être ce sera compensé. Peut-être on les devait. Visiblement, on n'a pas. D'accord. Ouais. Voilà, c'était
ça
un retard.
Ça avait été voté, c'était sur la ZAC Atalante, je pense.
Bah, c'est une taxe foncière des zones, après, quelle zone
je ne sais pas.
C'est la ZAC Atalante.
Voilà les explications. Donc, une augmentation modérée de notre budget de fonctionnement de 3%. Mais un budget tenu. Ah oui, il y a une petite slide sur les l'augmentation du gaz et de l'électricité. Alors sur voilà, c'était juste pour montrer que notre consommation était restée constante, vraiment à un mégawatt près, c'est la même. Voilà, c'est vraiment le prix de l'électricité qui a diminué. Donc c'est une bonne nouvelle, sachant que ça va peut-être réaugmenter. On ne sait pas. Des questions sur les dépenses de fonctionnement avant de continuer sur les recettes. Côté recettes, nous avons dépensé nous avons recetté en fonctionnement dans le budget de fonctionnement 3 895 706 euros et 44 centimes. Pour un budget de 3 686 570 euros. Donc, on est au-dessus du budget à hauteur de. Je n'ai pas calculé là, je me suis lancé. 200 000 euros à peu près. En 2024, nous avions recetté 3 753 143 euros et 87 centimes. Donc nous avons recetté 142 000 euros de plus, 562 euros de plus qu'en 2024, soit une augmentation de 4%. Donc nos dépenses ont augmenté de 3%, mais nos recettes ont augmenté de 4%. Donc on est à peu près à l'étal. Alors dans le détail, on a une grosse part de cette augmentation qui vient du chapitre 13, atténuation de charges. Donc le chapitre 13, ce sont les remboursements d'arrêt de travail qu'on a du mal à piloter, parce que on ne sait jamais trop quand les arrêts de travail vont être remboursés. Des fois, on reçoit ça assez rapidement, des fois, on reçoit ça 1 an après, voire plus. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, probablement que dans ces 139 000 euros-là, on a des remboursements d'arrêts de travail des années précédentes, etc. Donc, c'est une bonne année sur ce chapitre 13, si on peut s'exprimer ainsi sur des arrêts de travail. Voilà, pour le reste, on est conforme sur les gros postes, on est conforme à ce qu'on avait fait en 2024. On a les produits financiers là sur lesquels on avait. Ah oui, c'était une cession de terrain qu'on n'a pas eue cette année, donc il est normal qu'on n'ait pas la recette correspondante. Côté impôts et taxes, on est à 2 701 752, une petite augmentation par rapport à l'année précédente, mais pas énorme en fait, hein, de 29 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? Si on fait le bilan. Si on fait le bilan de notre fonctionnement, ben on a recetté 3 896 744 euros. On a dépensé 2 941 781 euros. Donc on va pouvoir reporter dans nos recettes de la section d'investissement du budget 2026 954 962 euros et 52 centimes. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Si on regarde si on essaye de comparer par rapport aux années précédentes, on a une épargne brute, alors qui est calculée, l'épargne brute est calculée sur les recettes et dépenses réelles. Hein. Une épargne brute de 991 608 euros, qui est je pense pas loin du record du mandat. Hein. On n'a pas mis 2020 là, mais. Voilà, donc une excellente nouvelle, puisque ça nous permettra d'injecter ça dans notre budget d'investissement et de pouvoir continuer à investir pour le bien de la commune et de ses habitants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je continue quand même. D'un point de vue endettement, notre capacité d'autofinancement brut de 991 000, duquel il nous faut rembourser du capital d'emprunt à hauteur de 213 860 euros, ce qui fait une capacité d'autofinancement net de 777 747 euros. Les 213 860 euros là représentent en fait 22% de notre part de capacité d'autofinancement. Ce qui est peu en fait à l'échelle d'une commune. Pour mémoire, en 2020 on était à 40%. Alors effectivement on a réemprunté l'année dernière, mais comme notre budget de fonctionnement et notre CAF également ont augmenté, en termes de ratio et de pourcentage, en fait on se retrouve bien moins, on a une part bien moins importante qui est consacrée à notre remboursement d'emprunt. Et on a l'indicateur qui est toujours intéressant, le désendettement en année CAF, c'est-à-dire que si on consacrait toute notre capacité d'autofinancement à rembourser notre emprunt, on rembourserait nos emprunts en un an et quatre mois, ce qui est inférieur au début du mandat, où on était à un an et sept mois. Donc voilà, plutôt satisfaisant, voire même très satisfaisant.
C'est cet indicateur-là, ou c'est 7, au-delà de 7 ans?
Alors, en fait, c'est 8 ans, je crois. Le seuil, le seuil où on commence à se poser des questions, c'est 8 ans, et le critique, c'est à 12 ans, me semble-t-il.
Ok.
Avant de passer aux investissements, est-ce que vous avez des questions? Investissement. Alors les dépenses. Nous avons réalisé en 2025 2 428 848 euros et 42 centimes de dépenses pour un budget de 4 720 641 78. Ce qui représente un taux d'exécution de 51%. Donc voilà, je pense qu'on est également au record sur le mandat. C'est une année où on a pas mal dépensé en investissement, ce qui est une très très bonne nouvelle. Moi qui me plaignais que les choses n'avançaient pas et qui prenaient du temps, là cette année, enfin en 2025, on a été servi. Quand on regarde les lignes 21 et 23 qui sont les immobilisations et les immobilisations en cours, on est sur 51% et 46%, ce qui fera, vous verrez le slide d'après, sur les immobilisations uniquement, 49% je crois de tête. On retrouve là notre remboursement d'emprunt bancaire à 213 860 euros et 23 centimes. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? C'est tout. Si on regarde notre historique de taux d'exécution, alors là on est remonté jusque 2015. On est effectivement à 49%, ce qui est très bien, ce qui est même excellent. En 2016-2017, il y avait eu deux bonnes années aussi avec 50 et 53%. Voilà. Voilà, donc très bien, une très belle année, bravo aux équipes et puis bravo, bravo à tous pour ces investissements, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a fait comme principaux investissements? On a mis quelques les grosses opérations qui ont été menées en 2025. Le terrain de football synthétique pour un investissement de 1 302 euros et 51 centimes, avec l'éclairage à hauteur de 34 000 euros. Cette opération a bénéficié de subventions à hauteur de 285 000 euros, soit 28% du coût. Et donc le reste à charge pour la commune s'est monté à 719 362 euros et 51 centimes. Au départ, sur notre plan prévisionnel d'investissement, on avait prévu un budget de 1 200 000. On est toujours un petit peu pessimiste lorsque l'on fait les prévisionnels. Le pump track, avec un montant de 186 795 euros qui a été subventionné à 50% du coût, c'est bien. Hein. Reste à charge pour la commune, 92 836 euros et 77 centimes. Bon, le pump track est un vrai succès, je pense que tout le monde a pu le constater. Moi, je suis effaré. Chaque fois que je passe devant, il y a du monde, c'est incroyable. Vraiment, je pensais pas. Troisième opération d'envergure qui n'est pas terminée mais qui est en passe de se terminer. Les travaux de la mairie. Donc là qui ne sont pas terminés, donc on n'a pas tout payé évidemment. Donc au 31/12/2025, on avait réglé 103 314 euros et 31 centimes. Il nous reste 405 440 euros. Soit un montant total de 508 755 euros, subventionné à 131 500 euros, soit 26% du coût, quand même. Donc un reste à charge de 377 255 euros et 17 centimes. Je ne sais pas quand est-ce que ça réemménage, là. C'est en cours, là.
On est dessus, justement, j'allais intervenir. Parce que tu disais que les travaux ne sont pas terminés ici.
Ils sont terminés.
C'est vraiment maintenant les petits détails qui restent à faire. C'est les retouches
de peinture.
Voilà, oui, ça y est. C'est fait. Le mobilier est en cours de déménagement. Là, a priori, je ne suis pas passé, mais il y avait une nacelle qui était là au mois de juin.
D'accord.
Et qui passait les meubles par le balcon de la mairie pour descendre ou monter. Voilà. Sans avoir
les
murs tout neufs.
Et le dos des agents.
Et c'est magnifique.
Bon, je pense qu'il y en a qui vont être contents. Hein,
c'est magnifique.
Dernière opération d'envergure de l'an dernier, qui continue cette année également. La crèche, avec 5 logements sociaux à l'étage de la crèche. On a réalisé en 2025 233 euros, et il reste à réaliser 1 319 496 pour un montant total de 1 550 000 euros, conforme d'ailleurs au PPI, là pour le coup, c'était bien calculé. On sera subventionné à hauteur de 60% sur cette opération, soit 935 581 euros de subvention, ce qui est...
Des subventions petite enfance.
Ouais, subvention petite enfance. Donc un reste à charge pour la commune de 614 419 euros.
Et là, par contre, on est un peu dépendant de l'avancement des travaux qui concernent les logements, puisque les logements sont...
Ouais.
Par contre, ce qui est intéressant... à préciser, c'est que maintenant on est hors d'eau, hors d'air, on n'a pas de retard. Voilà, on n'a pas de retard sur le chantier, au contraire, on a un petit peu d'avance et qu'on essaye de maintenir le plus possible pour éviter, parce qu'on sait bien qu'un chantier, il ne suffit pas grand chose. Et
bien sûr.
En ville, 15 jours de retard.
Et l'ouverture, c'est
fin
d'année.
Avec une ouverture de la crèche, possiblement avant les logements.
Non, en même temps.
Non, mais peut-être pas, mais la crèche, on verra par l'année. Oui. Parce que les logements, on ne les ouvre pas.
Non, mais je veux dire, à la mise en...
On les met à disposition.
Ok, on passe aux recettes. Alors, côté recettes, nous avons dépensé... Nous avons recetté, bah, décidément.
Je vais
dépenser. Oui, dépenser, moi. Nous avons recetté 2 560 418 euros et 40 centimes pour un budget total de 3 539 842 euros et 38 centimes, soit 72% de notre budget. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces recettes? On retrouve notre excédent de fonctionnement capitalisé à 812 000 euros, des dotations, fonds divers, les subventions d'investissement, dont on a parlé un petit peu avant, à 498 508 euros, l'emprunt qu'on a contracté pour financer ces belles opérations à 1 million d'euros. Voilà, globalement, nos recettes. D'autres à dire.
On peut la dire effectivement sur les subventions, il y a un gros delta, que ça dépend vraiment de l'avancée des travaux.
Effectivement.
La temporalité du versement des subventions.
Effectivement.
Pas corrélée à l'avancée
des travaux.
Des travaux.
Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc si on fait le bilan de cette année d'investissement, eh bien écoutez, nous avons recetté 3 279 769 euros et 68 centimes. Nous avons dépensé 2 498 268 euros et 29 centimes, ce qui fait que nous pourrons reporter 781 501 euros dans notre section d'investissement du budget 2026. Une petite note complémentaire pour vous dire que notre compte au trésor 515, nouvelle notion, qui en fait...
C'est pas le code secret. Hein,
non, non. C'est pas le code secret de la carte bleue de MRI. C'est le montant de la trésorerie. Donc ce qu'on a effectivement en banque, ce qu'on a effectivement en caisse au 31-12-2025, se montait à 1 524 698 euros. Sachant qu'on a calculé avec Karen que le seuil d'alerte était aux environs du million d'euros. On va dire ça comme ça, 900 000 à 1 million d'euros. Voilà pour les investissements. Est-ce que vous avez des questions?
Oui. Qu'est-ce qui explique les grosses différences de subventions pour les équipements sportifs entre le pump track à 50%, je crois, et le terrain de foot à 28%? Ah, pardon. Qu'est-ce qui explique les grosses différences de subventions pour le pump track à presque 50% et le terrain de foot à 28% seulement?
Ça dépend de la générosité et des moyens de l'État, hein, puisque un des gros subventionneurs, ouais, c'est la DETR Cécile. Et puis 50% sur 180 000, c'est pas la même chose que...
Non.
On aurait préféré avoir 50% ouais, sur le terrain synthétique. Hein,
La mairie, on est bien doté pour les travaux de la mairie. Pour la crèche,
ouais,
on est très bien doté.
À 40%, hein,
mais sur, comme ces deux équipements sport-loisirs avec une telle différence de pourcentage de subvention, c'est ça qui m'interpelle.
L'Agence nationale du sport, en fait, n'a retenu qu'un dossier sur les deux qu'on avait présentés. Le pump track, mais pas le terrain synthétique. C'est l'État aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Non, c'était juste pour comprendre le mécanisme.
C'est important parce qu'effectivement, quand on fait des demandes de subventions, et que maintenant on est quand même dans une période où effectivement il y a un petit peu de disette, eh bien, il faut choisir les dossiers sur lesquels on va chercher de la subvention. Pour se garantir le maximum de volume financier, pas de pourcentage, pour justement venir aider à l'accomplissement des projets d'envergure. Et puis après, effectivement, il peut y avoir des orientations, c'est-à-dire que sur les terrains synthétiques, il y a eu énormément d'aide sur les années, Philippe, je parle sous ton contrôle, hein, 2022, 2023, 2024, donc au bout d'un moment... ça diminue. Il y a eu aussi le côté des JO qui ont beaucoup capté de budget. Voilà.
Bon. C'est pas faux d'avoir effectivement sollicité aussi différentes structures, hein, parce qu'on avait demandé aussi sur la Fédération française de foot, différentes antennes effectivement, il y a des budgets qui sont un peu limités et réduits. Donc on pouvait escompter plus peut-être pour le terrain synthétique, mais effectivement, les réponses n'ont pas été forcément positives.
Je rappelle que sur cet investissement, la discussion qu'on avait eue au titre de la majorité, c'était de s'engager sur un investissement qui était très attendu par, bien sûr, le club sportif, mais aussi pour les établissements scolaires, sous réserve que ça n'empêche pas de venir financer tous les projets qu'on avait à l'origine programmés dans notre mandat et que on s'était engagé à faire l'étude d'opportunité sur ce dossier-là, et finalement on a réussi à conjuguer l'ensemble. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir le tester. Je regarde Aude qui était garante de cet engagement, et je t'en remercie, parce que effectivement, c'est, voilà, il faut les arbitrages parfois nécessitent qu'on regarde tout ça avec l'entièreté des enjeux, et aussi la prise de risque. C'est pour ça que la capacité financière, elle doit s'envisager indépendamment des subventions, parce qu'elles ne sont pas garanties. Et pour 2025, notre budget des subventions, on l'a su en juillet. Et pour l'Agence nationale du sport, on l'a su quand ? Fin d'année. Voilà. Le terrain était livré et on ne connaissait pas les coûts.
Ok, est-ce qu'on peut passer, je passe directement à la salle, on va faire toute la présentation maintenant. Hein? On vote après. Hein?
J'irai voir un film.
Donc je vais vous présenter le budget annexe socio-culturel et de la salle des loisirs. Donc, ça va être assez rapide parce qu'il ressemble fortement à ce qu'on a vu en 2024. Hein. Il y a peu de variations, on va dire. Donc sur les dépenses, nous avons dépensé, réalisé 2025, voilà, nous avons dépensé pour la salle socio-culturelle et la salle des loisirs 41 980 euros pour un budget de 46 900. Une augmentation légère de 1665 euros, soit 4% par rapport à 2024. Voilà, un petit peu moins de charges à caractère général. Au niveau des charges de personnel, on est quasi, un petit peu supérieur. Je me trompe, pardon. Au niveau des charges à caractère général, 100 euros de plus ou 160 euros de plus. Au niveau des charges de personnel, une petite augmentation par rapport à 2024. Voilà, ce qu'on peut dire sur les dépenses. Pour les recettes, on a une augmentation sensible de la location des salles. On arrive à un montant de 45 000...
Ou de la vaisselle.
On arrive à 45 428 euros, alors que l'année dernière, il faut ajouter les deux lignes, la 74 et 75, on était à 35 500, donc une augmentation de la partie location. Sur le cumul des recettes, on est à 57 016 pour un budget de 46 900, alors qu'en 2024, on avait réalisé 51 775 euros. Voilà, donc des dépenses qui ne varient quasiment pas par rapport à l'année précédente, et une petite augmentation des recettes.
Donc, juste peut-être un point à mentionner. Donc, au niveau des recettes, on a effectivement de plus en plus de locations de salles. On arrive là, même pour cette année, vraiment un calendrier très serré, puisqu'il n'y a plus beaucoup de disponibilité. Donc une légère augmentation de salles, puis l'an dernier, souvenez-vous, on avait fait aussi une augmentation des tarifs des salles. Ouais. Donc ça doit jouer certainement un petit peu sur l'augmentation des recettes.
Donc en bilan, nous avons recetté 57 016,90 euros. Nous avons dépensé 41 980,76 euros. Nous pourrons reporter 15 036,14 euros sur le budget prévisionnel 2026, section de fonctionnement, parce qu'on n'a que du fonctionnement, des salles, des loisirs et socio-culturels.
Tiens, tu as des vidéos. je vais transmettre la présidence de la séance à monsieur Jasselet.
C'est une nouveauté ?
Non, c'est tous les ans, mon cher.
Tous les ans, c'est ça ?
Si, mais tu as la mémoire courte.
Je ne me souviens pas.
Voilà. Attends.
Tes indemnités ne vont pas augmenter à peu près. C'est vrai.
C'est Yves qui l'avait fait.
C'est Yves qui l'avait fait, je pense.
C'est Yves qui l'avait fait.
Ouais, c'est pas moi, c'est toi qui faisais la vidéo.
Non, c'est moi, mais puisqu'elle t'a désigné.
D'accord.
Je ne vais pas faire de jalousie.
Je rebois un coup alors. Très bien, bah, écoutez, je vais vous demander de délibérer sur l'approbation du compte financier unique de l'année 2025 pour le budget de la commune. Alors, Madame la maire propose au conseil municipal de désigner Monsieur Nicolas Jasselet en tant que président de séance. Ben, ça, c'est fait. Donc, je vous rappelle que le compte financier unique est depuis 2024 la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Le budget général de l'exercice 2025 pour lequel le compte financier unique est soumis au conseil municipal s'est exécuté du 1er janvier au 31 décembre 2025 pour la section d'investissement et également la section de fonctionnement. Ces documents dégagent les résultats suivants. Section d'investissement, résultat antérieur reporté 613 286,40 €. Dépenses 2025, 2 498 268,29 €. Recettes 2025, 2 666 483,28 €. Résultat de la clôture 2025, 168 214,99 €. Un résultat de 781 501,39 €. Pour la section de fonctionnement, pas de résultat antérieur. Les dépenses 2025, 2 941 781,54 €. Recettes 2025, 3 896 744,06 €. Résultat de la clôture 2025, 954 962,52 €. Résultat cumulé, 954 962,52 €. Comment on dit ? Est-ce qu'il y a des commentaires ? On m'a demandé, est-ce que vous avez des commentaires, Olivier ?
Comment expliquer ça ? On va considérer que oui, les comptes sont bien tenus, ça a été bien présenté, c'est clair et net, donc on ne peut qu'approuver ce compte-là. Ça ne veut pas dire, pour autant, je tiens à préciser, qu'on a été d'accord tout au long de ce mandat sur les dépenses. Nous avons une commune qui a un gros train de vie, donc c'est un choix qui a été fait. Et donc, vous l'avez assumé, mais donc, on ne peut que dire que les comptes sont bien tenus, c'est clair. J'aurais quand même envie d'une petite explication sur ce qui n'est pas forcément un point de détail, quand même. C'est sur cette taxe foncière là, d'Atalante. Qu'on sache clairement, c'est payé, c'est pas payé, ça coûte combien finalement. Il y avait déjà, j'espérais, comme ça avait été évoqué en commission l'autre jour, finance, que vous ayez un petit peu plus d'explications aujourd'hui. J'espère qu'au niveau de l'agglo, les comptes sont bien tenus et qu'on sait vous présenter les taxes foncières.
Oui, on y ira, je pense.
Il me semble que c'est Atalante, parce qu'en fait, ça, pour moi, ça fait suite, mais on pourra le repréciser, mais ça fait suite à la décision par l'agglomération de reprendre la gestion d'un certain nombre de zones d'activité sur l'ensemble du territoire de l'agglomération. Et donc, de ce fait, en fait, le temps que ça se mette en place, je pense que c'est juste un délai qui fait qu'il y a eu un retard d'appel. Et pour moi, c'est une régularisation.
Le 25 juin, il n'y a pas de complication, puisque la zone de la Chapelle de la Lande...
Non, c'est pour ça qu'il y a Catalante, en fait. Donc, c'est la seule zone, en fait, puisqu'elle est sur le territoire de Saint-Jean. Donc, on perçoit effectivement juridiquement les recettes, mais on les reverse à l'agglomération qui, elle, a la gestion de cette zone d'activité.
Donc on a sur 2025 un reversement de la part communale pour 2023 qui nous a été sollicité justement sur cette de 2025 et on a la part 2024 également. Donc je pense que c'est effectivement, comme l'explique du coup, c'est un retard de facturation par sa malheur d'agglomération.
Merci.
Après, ce n'est pas significatif sur notre budget.
Non. Mais cela dit, le questionnement.
C'est 30 000. Ah, c'est 30 000 euros, mais
le questionnement est légitime.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est à Talente, je suis en train de regarder les documents. On refaire le versement taxe foncière 2003 à Talente.
C'est ça.
Oui,
aussi.
Donc, 2003,
ça fait quand même
un gros
gros.
Merci, Karen.
On passe au vote, pas d'autres remarques ? Est-ce qu'il y a des oppositions ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Bien. Très bien, nous allons passer maintenant au budget des salles. Donc même délibération pour le budget des salles. Donc le document comptable dégage les résultats suivants. Rien en section d'investissement, il n'y a pas de section d'investissement pour les salles. En section de fonctionnement, résultat antérieur reporté 11 460,08 €. Dépenses 2025, 41 980,76 €. Recettes 2025, 45 556,82 €. Résultat de la clôture 2025, 3 576,06 €. Résultat, 15 036,14 €. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ?
C'est trois, je ne me souviens plus. Je suis désolée, c'est la salle sociaux, la salle des loisirs.
Salle sociaux et salle des loisirs, non.
Non, pas celle-ci. Ouais. Okay.
Salle sociaux et salle des loisirs.
Et si on décidait de faire des travaux d'envergure, ça rentrerait dans les investissements pour le coup ?
Oui, mais ce serait sans doute sur le budget, sur le budget principal, ce ne serait pas sur le budget des salles.
Ouais. Ok.
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Qui vote pour ? Allez, l'unanimité, je vous remercie.
Voilà.
C'est tout bien ?
Ouais, bravo. Je pense qu'on peut en profiter de ce laps de temps pour remercier.
Oui, j'ai pas remercié Karen évidemment. Ah
ouais. Et Nicolas pour leur beau travail.
Qui fait un travail formidable.
Ce qui ne met pas toujours, c'est les 0,38 €.
Ah, c'est toujours
au centime. C'est ça la
compta. C'est ça. Ok. On va libérer Karen. Alors, est-ce que vous êtes d'accord ? Qui est pour que nous libérions Karen pour qu'elle retourne dans sa maison et sa vie de famille ?
Oui, merci.
Oh, c'est bon. On trouve qu'elle est mignonne à pleurer. Merci, Karen.
Merci, Karen.
Merci.
Merci. Alors, on va passer à la délibération suivante et c'est Madame Sissi qui va nous en parler. Puisqu'elle concerne le financement du séjour de l'espace jeune. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi n'est-ce pas Madame Haute-Poirier ? Mais parce que cela concerne la vente du livre. Rosanne.
Alors, nous avons procédé à un désherbage de livres à la bibliothèque il y a quelques semaines déjà. Et une vente va être organisée au profit de l'espace jeune, comme nous l'avions d'ailleurs fait pour le Téléthon. Et en ce qui concerne cette vente, ça permettra de financer une partie du séjour à Athènes de ces jeunes. Donc, il faut fixer le montant... le tarif des livres, hein, donc ce sera 1 € pour les documents adultes. Donc les documents adultes, ce sont les romans comme les BD. Un tarif de 50 centimes pour les documents enfants et pour la vente de 3 revues également. Alors, outre cela, il est précisé que les livres non vendus pourront être mis à disposition des lecteurs dans la cabane à livres qui se trouve au Vallon.
Dans le Diport, parce qu'il faut que les gens les achètent. Mmh.
Oui, mais en même temps, il fallait délibérer aussi sur ce sujet,
bien sûr.
Mais après, s'ils les achètent pas, peut-être n'ont pas envie de les lire, c'est peut-être pas utile de les mettre dans la cabane à livres.
D'accord, je retiendrai.
Merci, Rosanne. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ? Y a-t-il des oppositions, des abstentions à l'unanimité ? Bon, on espère qu'il y aura beaucoup de ventes, parce que pour arriver à ce que ça représente quelques dizaines d'euros, il faut quand même...
Au Téléthon, ça rapporte combien, à peu près ?
De mémoire, au Téléthon, ça a rapporté 350 ou 380 euros, ouais. Même, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Donc, c'est pas négligeable.
Alors, la délibération suivante, donc elle concerne une délibération qui annule et remplace la délibération numéro de 2026-06 sur la garantie des emprunts. On en a deux délibérations qui doivent être modifiées au motif que dans un grand souci de personnalisation des délibérations joannaises, nous avions apporté quelques... petite nuance dans le texte. Or, la Banque des territoires exige que certaines formulations soient strictement réservées et respectées. Et donc, pour pouvoir apporter notre soutien dans la garantie des emprunts pour Néotoa, aussi bien pour les logements PLS, PLU, S, que pour les autres, pour des montants quand même qui ne sont pas neutres, donc, puisque on nous demande de garantir un premier emprunt de 416 399 euros qui a été pris auprès de la Caisse des dépôts et consignations, eh bien, il faut que nous adoptions, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez, cette délibération, en indiquant que dans le de dire, il faut accepter que ce soit sur la durée totale du prêt, ce qui n'était pas mis auparavant, c'était marqué la durée du prêt et jusqu'au remboursement de celui-ci. Or, il faut qu'il y ait d'indiquer la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement. D'accord ?
Donc, intérêt est principal.
Voilà. Donc on est vraiment dans la précision, hein, Delphine, hein, qui fait que bah voilà, la délibération doit être modifiée. Donc je vous rappelle effectivement que c'est la pratique que quand les collectivités bénéficient de la mise en place de logements sociaux avec des bailleurs, eh bien on demande à ce que les collectivités viennent garantir les emprunts à hauteur de l'emprunt qui est attribué, en sachant que pour rassurer quand même les élus, mais aussi la population, puisque c'est le budget de la population, c'est que dans l'hypothèse où un bailleur ne pourrait pas rembourser son emprunt, je rappelle qu'il est propriétaire d'un patrimoine qui a une valeur extrêmement importante et que c'est d'abord la vente du patrimoine qui viendrait compléter les obligations de remboursement de prêt avant que la commune le soit. Mais ça vient aussi donner de la solidarité et une cohésion dans la démarche de production de logement social. Donc la première délibération que je vous propose, c'est donc que nous puissions garantir ces 416 399 euros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération ?
J'ai essayé de... Je reconnais, j'ai voulu lire la délibération du mois dernier, et puis en lisant rapidement, je n'ai pas vu la différence. Non, les emprunts, c'est pourtant déjà contracté. C'est qu'on arrive aussi tard, que ça a vu l'ampleur du chantier aujourd'hui. Il y a déjà des gros montants qui ont été investis dans cette affaire.
Oh, mais ils ont un fonds de roulement, ils ont des fonds de roulement, enfin c'est... Ça passe en conseil d'administration des bailleurs et c'est souvent a posteriori que ça nous est demandé. Mais nous, on a déjà une convention d'établie avec eux qui fera qu'on s'engagera. Mais tu as raison, effectivement, là on va bientôt on va avoir des livraisons d'ici septembre, hein, sur juin sur un des logements. Donc il était temps. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à cette délibération ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Et donc, pour la suivante, c'est la même chose, sauf qu'on est sur un montant plus important, puisque c'est 1 564 235 euros. Là, il n'y a pas de centimes, donc c'est plus facile.
C'est les 11 logements. En fait, il y a deux emprunts différents, ouais, parce que ce n'est pas le même de typologie de logement. Le premier, c'est pour les 3 logements locatifs qui sont dans la rénovation de la maison.
Ah oui.
Et les 11, la deuxième délibération concerne les 11 logements qui sont construits en neuf, quoi.
Merci Dominique. Est-ce qu'il y a des questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. La délibération suivante concerne une convention avec le centre nautique de Rennes et de Rance. Et c'est Aude qui va nous en parler.
Bonsoir. Donc, comme vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, la commune conventionne avec le centre nautique de Rennes et de Rance, donc c'est une situation insulaire. Et cette convention que nous avons fait la dernière date du 7 mars 2023 arrive à échéance puisque c'est une convention qui a une durée de 3 ans. Donc pour rappel, dans cette convention que nous avons avec le centre nautique, la commune verse une participation à hauteur de 2 euros par an et par habitant. Donc c'est en fait une sorte de provision, donc c'est une avance qu'on leur fait et ensuite ils utilisent cette provision pour décalquer les montants que nous leur devons, à savoir les séances, puisque chaque année, hein, pour rappel, les CM des deux écoles donc une alterne. Une année, c'est l'école Robert Lossois, l'année suivante, c'est l'école Sainte-Anne. Et donc, il y a à peu près une cinquantaine de jeunes qui, donc, chaque année, font un stage de voile sur une période d'environ une semaine. Nous avons aussi des jeunes avec la DESCAP qui bénéficient aussi de cette convention. Et puis bien évidemment, cette convention permet aussi à tout habitant de la commune de bénéficier d'un tarif préférentiel. Voilà, et donc nous souhaitons renouveler en fait cette convention pour une durée de 3 ans. Et donc je vous demande d'approuver le fait de renouveler cette convention avec le centre nautique.
C'est bon pour tout le monde ? Pas de questions, pas de commentaires ? Je pense que chacun des parents ici présents ont eu un enfant ou des enfants qui ont été faire un stage de voile, soit avec les soit avec
l'adosphère. Il y a quand même donc, une trentaine de joignées qui ont bénéficié l'année dernière, un parent qui a fait un stage, qui ont fait la démarche d'aller faire un stage de voile. Avec un bénéficier du tarif préférentiel du fait de notre convention.
Très bien.
La préférentiel, c'est une réduction de 15% sur le montant.
Pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Alors là, c'est pareil, une délibération un petit peu a posteriori, je le dis avant en introduction. Donc, c'est pour l'aménagement de la liaison cyclable en agglomération et c'est la convention d'aménagement avec le département et c'est Nicolas qui nous en parle.
Eh bien, donc effectivement, vous avez vu que nous avons réalisé la liaison cyclable autour du rond-point du Moulin du Domaine et qui se situe sur une voie départementale. Et donc, à ce titre, il nous faut signer une convention avec le département qui va préciser. Alors, je ne sais pas si c'est la peine de la passer en revue. Hein, c'est un document qui est un petit peu... Ah ben, non, c'est pas ça. Qui... En plus, pas très bien scanné, j'ai l'impression, et difficile à lire, mais voilà, ça fixe les conditions d'exécution des travaux, c'est tout à fait classique, et ça fixe également les conditions d'entretien et de maintenance de la voie, qui sont à la charge de la commune. Bon, je ne suis pas certain, à moins que vous ayez des questions, vous voulez absolument.
Principe qu'on a déjà mis en place oui. Lorsqu'on a fait ce qu'on appelle la passerelle
le pont, là.
Sur le pont, ouais. Où là on avait une convention tripartite entre Saint-Malo à nous, le département et puis la commune.
Voilà. Alors, donc c'est
les mêmes choses, oui, ça détermine les conditions d'entretien, etc.
Et de réalisation des travaux qui sont faits. Du coup, effectivement, ça arrive un petit peu a posteriori.
Peut-être aussi préciser, parce que quand on arrive en conseil municipal, bah, c'est ficelé. Le travail a été fait ou va être fait, mais quand même partager le nombre de réunions qui ont lieu en amont quand il y a autant d'interlocuteurs autour de la table avec des normes qui sont extrêmement importantes, fermes, voire rigides quand on n'est pas initié. Mais les obligations pour le département de largeur de voie, de distance par rapport aux piétons, par rapport à l'emprise, par rapport à ceci, à cela, c'est énorme. Alors là, c'est tout à fait normal, on se fait accompagner par des cabinets, on s'est fait accompagner aussi avec l'agglomération, mais autour de la table, les élus et les agents sont très très sollicités pour pouvoir s'assurer malgré tout qu'il n'y a pas un dévoiement du projet initial. Parce qu'en fait, c'est toujours l'enjeu de ce travail collaboratif, c'est que toutes les parties aient le sentiment et l'assurance même d'être dans l'objet des temps de travail. Et ça, c'est... je sais que Yves, Jean-Michel et Nicolas et Dominique, hein, à l'urbanisme, parce qu'il y a des emprises foncières qu'il a fallu aller négocier, des règles. Là, on a même eu à la fin notre petit panneau de signalétique qu'on voulait mettre à un endroit et on nous a dit bah non, parce qu'il faut qu'il soit à telle distance des espaces verts. Et ça, tout ça, quand on arrive devant le conseil municipal, si on vous expliquait dans le détail l'entièreté des temps de travail, vous diriez eh, demain on travaille, hein. Donc voilà, en synthèse, bien sûr, les délibérations reprennent tous ces éléments-là, mais il faut aussi partager effectivement tout ce temps de travail qui a été mené.
Alors, peut-être préciser qu'il va y avoir les peintures.
Cette nuit, là.
Alors normalement, oui.
C'est avec la pluie.
Voilà, j'ai encore peur. Et oui, les peintures, les résines, puisqu'il faut que les supports soient secs, qu'il y ait une certaine température. Alors la température de fond, là, elle est garantie, mais c'est plutôt les supports secs. J'espère. Après, voilà, on ne peut pas reprocher ce qu'il ne peut pas faire, parce que de toute façon, si c'est fait n'importe comment, ça ne tient pas. Donc, c'est ridicule de gaspiller de l'argent et des matériaux.
Ok, y a-t-il des questions par rapport à cet aménagement ?
Petite question sur la signalétique. Je m'aperçois qu'à Saint-Malo, il y a de plus en plus d'endroits où c'est indiqué clairement que la priorité doit être donnée sur le passage piéton, au vélo également. Et dans le code de la route, sont prioritaires les piétons, mais les passages piétons, pas les vélos. Et que l'on soit en train de se promener en vélo avec sa voiture, il y a des moments d'hésitation. Est-ce qu'on doit laisser passer un vélo ou pas ? Il y en a qui ne laissent pas le choix. Est-ce que quand on est en vélo, est-ce qu'on a le droit de passer ou pas ? Et donc, sur pas mal d'endroits à Saint-Malo, maintenant, c'est même indiqué priorité piéton, vélo. C'est clair.
Je pense qu'à certains endroits, effectivement, quand c'est possible de faire, on maintient la priorité, parce que l'objectif, c'est de permettre au vélo de ne pas s'arrêter. Hein. C'est ça, mais après, il y a des lieux où c'est extrêmement. Où il y a trop de voitures. Pour qu'on puisse garantir la priorité aux piétons, au vélo. Donc je pense que là, on s'est fait accompagner pour ça. Après, vous êtes les uns et les autres des usagers du vélo et il peut y avoir des évolutions. Mais je ne pense pas qu'au rond-point, c'est prévu la priorité au vélo
Les vélos, ils passent
sur les piétons en même temps.
En même temps que les piétons. Donc, ouais.
Ils passent sur les piétons, c'est vraiment deux couloirs différents.
Oui, c'est deux couloirs différents, mais et puis il y a un petit dodane en plus. Donc, la priorité, elle est au vélo.
Mais par contre, il y a un stop à la station-service.
Un stop à la station-service. Là, le vélo n'est pas prioritaire.
Parce que c'est là. C'est la fin de la piste.
C'est la fin de la piste aussi.
C'est
un peu particulier.
Il y a effectivement la signalétique pour le vélo et le piéton, mais il y a aussi, je pense, effectivement, dans ce produit, Olivier, c'est la signalétique pour les
voitures.
Dans les deux cas, quand je fais du vélo, j'aime bien savoir si j'ai le droit de passer ou non. Et donc, à Saint-Malo, on s'aperçoit qu'il y a des endroits où on a franchement le droit de passer. Donc, quand je suis en voiture, parfois, je me sais bien ce que je dis, on n'a pas envie de s'arrêter parce que c'est gênant. On le fait quand on peut, mais pour le code de la route tel qu'on l'a appris il y a très longtemps maintenant, le saut de passage piéton, on verrait. Oui.
Ceci, le vélo se dessinait au sol. Sur la route, le vélo est marqué, le passage piéton, le vélo est marqué, 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 le v
Les deux couloirs de voie douce, hein, que ce soit piéton ou vélo, on le voit, c'est intégré entre les dents de requin. Donc, du coup, pour moi, ça donne la priorité au vélo.
Ah bah oui, oui. Ah bah oui. Alors moi, perso, je ne me suis pas posé la question.
Non,
pour
non,
moi,
il y a des stops, hein.
C'est priorité au vélo. Clairement.
Bon, en tout cas, et c'est un point d'attention qu'on aura. Vous avez eu le nombre de petits items là ? Allez. Pourtant, elle est courte la délibération. Bon, est-ce que on a fait le coucou ? Est-ce qu'on a fait le tour des questions ? Pas d'autres questions ? Y a-t-il des oppositions à cette délibération ? Des abstentions à l'unanimité ? Je vous remercie. Alors, une petite délibération toute simple pour Yves. C'est vrai, c'est important quand même que...
C'est une dernière.
Jusqu'à la fin, tu te charges des délibérations fastoches. Et donc, c'est une délibération qui concerne l'enfouissement coordonné des réseaux aériens de communication électronique de Orange. Vous êtes avec moi ? Et des réseaux aériens de distribution d'électricité établis sur support commun, c'est-à-dire une convention portant attribution à Orange de la propriété des installations. Mais Yves va nous traduire ça dans un français oui, tout à fait accessible.
En fait ce n'est que la confirmation que ce qu'on pratique déjà de toute façon, enfin je dirais sur le sujet. Hein. C'est-à-dire que pour moi c'est quelque chose d'intelligent. Si tous les concessionnaires pouvaient en faire autant, ça serait drôlement bien. Les concessionnaires concernés, c'est donc Orange et puis les sociétés qui distribuent l'électricité, qui conventionnent sur le principe d'une tranchée commune et qu'au fond de cette tranchée commune, on comprend bien les réseaux électriques et les réseaux téléphoniques, dedans. Mais surtout qu'à partir du moment où l'un ou l'autre de ces concessionnaires décide d'enfouir, d'enterrer ces réseaux, et bien à ce moment-là, l'autre concessionnaire est obligé de fuir et donc d'enfouir aussi ces réseaux. Après, la particularité, sinon ça ne serait pas intéressant de faire une délibération, après il y a la particularité, c'est qu'il y a deux options. Voilà. Donc, il y a l'option A qui dit la collectivité est propriétaire des ouvrages. Et là, comment ça fonctionne ? Eh bien, à ce moment-là, on dit que Orange utilise un fourreau de liaison entre les chambres et les fourreaux de branchement, moyennant une redevance annuelle de 57 centimes du mètre linéaire de fourreau envers la collectivité, donc envers nous. La collectivité est propriétaire d'un second fourreau pour le déploiement de la fibre optique. Alors, sauf que là, on l'a déjà bien déployé hein, sur la commune. Et la collectivité propriétaire d'un troisième fourreau dit de manœuvre devant rester libre. Donc ça permet de dépanner s'il y a un fourreau est cassé, bouché, etc. Et bien ça permet, grâce à ce fourreau-là, de pouvoir intervenir et donc d'occuper et de distribuer, comment dire, le téléphone par la fibre. Et puis, dans ce cas-là, la collectivité est responsable de l'entretien, la maintenance et des réparations de ses ouvrages et assure à ce titre la gestion des DT et des ICT, alors c'est demande d'intention de commencement de travaux, voilà, donc auprès du guichet unique. Donc c'est un système qui permet d'avoir la connaissance de tout ce qui se passe en souterrain. La deuxième option, Orange est propriétaire des ouvrages. Donc voilà, c'est l'autre côté. Dans ce cas, Orange utilise un fourreau de liaison entre les chambres et les fourreaux de branchement, comme tout à l'heure. Hein. Orange est propriétaire d'un second fourreau de le droit d'usage et dégâts à la collectivité pour le déploiement de la fibre optique. Et à côté de son utilisation, la collectivité ou son gestionnaire de fibre optique est redevable à Orange d'une contribution aux frais de gestion de 15 centimes du mètre linéaire et par an. Orange, non, enfin toujours dans cette option-là, Orange est propriétaire d'un troisième fourreau dit de manœuvre devant rester libre. C'est le même principe que ce que je vous ai dit ici tout à l'heure. Et enfin, Orange est responsable de l'entretien, la maintenance et les réparations des ouvrages et assure à ce titre la gestion des DT et des ICT auprès des guichets uniques. Là, par contre, par rapport à tout à l'heure, on inverse. On inverse les responsabilités d'entretien. Et dans ce cas, eh bien, les contributions sont différentes en montant et différentes aussi sur celui qui doit les verser. Donc, en contrepartie de la différence entre les charges théoriques que doit supporter Orange, protocole national, et les charges réelles lors des opérations d'enfouissement, Orange est redevable d'une contribution à l'investissement de 1,97€ par mètre linéaire de forêt pour une propriété collectivité, donc option A, et de 4,63€ par mètre linéaire de forêt pour une propriété Orange, option B. Donc voilà, on voit il y a vraiment un delta assez important. Après, ces réseaux, c'est toujours un peu le bazar. Et moi, j'espère, enfin, moi, je vais vous proposer hein, de retenir l'option B, mais j'espère que cette option B va nous permettre, dans certains points de la commune, de résoudre l'affaire de travaux, parce qu'il y a malheureusement encore quelques particuliers qui n'ont pas accès à la fibre, tout simplement parce qu'il y a des fourreaux qui sont cassés, écrasés, ou qui passent dans des propriétés privées, mais il y a des blocages, où le propriétaire privé ne veut pas laisser l'accès sur de sa propriété pour pouvoir travailler et installer soit les chambres, soit les fourreaux. Donc c'est un petit peu bazar. On a quelques cas comme ça sur la commune, malheureusement. Et j'espère que ça permettra vraiment de nous mettre quelques temps en tête. Voilà, pas nombreux, mais ils sont là quand même.
Merci Yves. Donc là, l'idée, c'est de retenir l'option B, de par la technicité aussi hein, de l'entretien. Je pense que c'est bien de laisser. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération? Oui. Alors, mais... Oui.
Juste à le... Est-ce que dans ce cas, Orange a quand même la... Enfin, il y a la pleine propriété et est-ce qu'il peut ne pas accepter l'utilisation de son propre fourreau par un autre opérateur ou pour un autre usage ?
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a un
fourreau. Est-ce que ça ne peut pas porter problème ?
C'est pour ça qu'il y a toujours un fourreau supplémentaire mis deux.
Ouais, en général, on en met deux, mais est-ce qu'il y en a vraiment deux partout ?
Trois.
Depuis le début qu'on fait les effacements de réseau, il y a toujours des fourreaux supplémentaires de poser justement pour pallier à ces problèmes.
C'est l'exclusivité en fait. Ouais.
Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Mon cher Yves, c'était ta dernière délibération. Bravo, merci. Bravo.
Avec plaisir. Et merci d'avoir dépassé le conseil municipal pour me permettre de présenter cette dernière délibération.
Voilà. Alors, comme vous avez pu le constater, être adjoint aux travaux, c'est des petits dossiers simples, avec pas de technicité du tout. Délibération suivante, c'est une convention de partenariat avec la Poste. Hein, donc, comme on l'avait évoqué au vœu 2025, hein, de transférer la Poste en poste communale pour garantir un service au public dans les services publics, on arrive ce soir à la traduction de cette volonté politique et la délibération consiste à se mettre d'accord avec la Poste sur des éléments qui caractériseront notre collaboration puisque c'est pas neutre. Donc on a des éléments qui consistent à définir le nombre d'heures sur lesquels la commune s'engage à ouvrir le service. Donc on est sur 15 heures, hein, conformément à ce qui se fait aujourd'hui. Alors vous allez me dire pourquoi 15 heures et pas davantage. On a reçu la Poste à plusieurs reprises qui nous a présenté le flux d'activité, hein, et qui nous invite véritablement à ne pas... à ne pas avoir des services trop ouverts, puisque le nombre de personnes qui viennent par jour diminue de plus en plus. Essayez de comptabiliser combien de fois vous ouvrez votre boîte aux lettres par semaine, et peut-être pour certains par mois, quand vous n'avez pas oublié que vous avez une boîte aux lettres. Mais combien de fois allez-vous acheter des timbres ? L'essentiel de l'activité de la poste aujourd'hui, hein, c'est vraiment les colis, et pour les personnes qui ont encore un compte postal, de pouvoir faire des dépôts ou des retraits.
Et recommander quand même ?
Oui, mais enfin, ça reste marginal.
On en voit combien par mois ?
Par an.
Ben, ça dépend si t'es beaucoup en retard dans le règlement de tes factures.
Ça dépend de tes contentieux personnels.
Donc on ne fera pas des exceptions, une généralité. Hein, voilà. Donc l'ouverture de la poste se fera donc dans la mairie, donc sur les horaires que je viens de vous donner, de 15h, répartis du mardi au samedi, avec des matinées et des après-midi. Donc nous allons faire le recrutement de l'agent, puisque c'est la commune qui embauche un agent à hauteur de 15h. Et demain, avec Delphine, nous allons faire les recrutements, puisque nous avons reçu plus de 100 candidatures. Donc c'est pour vous dire. En contrepartie... En contrepartie de ce transfert de la poste vers la commune, alors la poste nous versera une subvention de 1211 euros par mois, qui sera révisée selon un indice tous les ans, et donc qui couvre en partie les salaires plus les frais d'entretien, enfin toute l'activité. La Poste nous verse aussi une aide au démarrage de 3000 euros et une participation à hauteur des investissements qu'on a menés pour, je dirais, répondre aux spécificités de la Poste, à hauteur d'environ 11 500 euros, puisque Karen, on va rappeler Karen, là, parce qu'on n'a pas tout le détail. Voilà. Et donc c'est une convention de 9 ans hein, qui est faite et qui peut être révisée dès que nécessaire. Je veux dire, c'est pas ferme et définitif. Donc on espère ouvrir entre le 1er et le 15 avril. Hein, la convention a stipulé le 1er avril, mais là on est avec Delphine sur les derniers échanges avec la Poste pour s'assurer que tout sera fait, parce qu'il y a toutes les installations téléphoniques, le mobilier qui doit être installé, parce que c'est la Poste qui fournit son mobilier, qui a son kit, je dirais, spécifique. Et donc, on espère que ce service donnera toute satisfaction à la population et que on sera à la hauteur de ce qu'on a recherché, c'est-à-dire garder en prenant cette responsabilité d'ouvrir un bureau de poste communal en plein cœur de bourg, sans dépendre d'une décision d'un tiers, mais c'est bien nous qui à partir de la signature de cette convention serons aux manettes de maintenir ou pas un service postal communal. Voilà ce que je peux vous dire sur cette délibération. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Oui. Tu as dit que c'était 9 ans ?
Oui.
La durée ?
Oui.
Avec des périodes où on peut résilier quand même avant ?
Oui, c'est ce que j'ai dit.
Ah ouais. Et juste une précision, la rémunération mensuelle forfaitaire, c'est par palier d'heures ou c'est un forfait, quel que soit le nombre d'heures d'ouverture.
C'est pour 15 heures.
Non. C'est-à-dire que même si on avait fait le choix
d'ouvrir 24 heures, c'était le même montant.
Ouais. Parce qu'en général, ce qui se passe, faut pas rêver, c'est que quand les communes font le choix de se saisir de la responsabilité de prendre la poste, et ou de solliciter un commerçant, hein, c'est ce qui arrive par moment, bah, c'est parce que la Poste a déjà réduit son nombre d'heures d'ouverture et qu'on arrive à des seuils, parce que la Poste a une obligation minimum de 12 heures hein, par semaine d'ouverture.
Et est-ce qu'ils peuvent nous demander de réduire les heures ou...
Non.
C'est nous qui décidons.
C'est nous qui décidons. On pourrait, alors on a une convention, après vous savez bien, les conventions, oui, elles n'ont de valeur que sur la durée de l'avenant qui peut arriver en disant selon la loi du machin qui dit qu'il peut y avoir modification. Mais aujourd'hui, en l'état, c'est comme ça.
Et la convention stipule là le nombre d'heures.
Oui, bah, c'est l'objet.
C'est marqué un minimum et
12
heures, et après, il y a des annexes.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'il faudrait une convention en les heures de liberté.
Il n'y a pas d'incompatibilité avec les horaires, qui ne sont pas les mêmes horaires que ceux qui sont ouverts à la mairie.
Non, parce que vous verrez que quand vous rentrerez dans la mairie, on a vraiment. D'abord, il y aura un agent qui sera dédié en priorité sur la Poste. Donc. L'objectif, c'est que ce soit un lieu d'accueil. Donc, quand la Poste est fermée, il y a une porte qui ferme. Et quand l'accueil de la mairie est fermé, eh bien, je dirais, la porte de la Poste sera ouverte. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité.
Et puis, le reste de la mairie, de toute façon, sera ouvert à la circulation des personnes.
La Poste n'est pas très généreuse quand même.
Non.
C'est d'investissement ou de participation. Et la personne qui va être embauchée là, aura d'autres heures dans la commune ou...
Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, on crée un poste contractuel, hein, puisque on ne connaît pas aujourd'hui la durabilité de la convention qui est de 9 ans, enfin on la connaît pour 9 ans, mais on sera sur une démarche et dans un premier temps, on n'a pas prévu, mais dans les collectivités comme dans toutes les entreprises, on a une base, mais on sera clair avec la personne qu'on recrutera sur le fait qu'on ne s'engage pas à pouvoir lui donner plus d'heures, sauf que le droit du travail dit aussi que pour les temps partiels, quand il y a des créations de postes, enfin d'heures complémentaires qui sont compatibles avec les métiers ou les compétences du salarié, les temps partiels sont prioritaires. Et nous, on essaye tout le temps de faire cette démarche, de venir compléter les heures quand les salariés le demandent, mais sous réserve que ce soit compatible.
Il y a encore une précision. La Poste actuelle est toujours propriété de la commune,
oui.
Et donc la Poste avait une location, je suppose qu'il payait quelque chose pour les tourelles.
Ouais.
Et il y a une vocation d'envisager pour ce bâtiment.
Mais
la Poste abandonne de toute façon complètement. Il ne le garde pas pour faire quoi que ce soit. Donc...
Ah bah il peut. Enfin, c'est... L'objet du bail était relatif à l'activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est clair pour tout le monde. Y a-t-il des oppositions par rapport à cette délibération? Des abstentions? L'unanimité, je vous remercie. Ainsi s'achève notre conseil municipal. Donc, je vais vous faire lecture des décisions j'ai prises en janvier. J'en ai pris qu'une en février. C'était... un avenant pour le lot numéro 1, travaux d'aménagement de la mairie, de 210 euros TTC avec l'entreprise Théolis pour le curage démolition réseau modulaire, avec un marché qui est maintenant d'un montant de 35 610 euros TTC. Avant que je ne conclue, est-ce qu'il y a des prises de parole, des questions, des remarques? Non? Bah écoutez, je voudrais vraiment vous dire combien 6 années de mandat avec vous tous élus a été une aventure riche, fructueuse, intéressante, interrogeante pour moi. Je pense que on peut tous ensemble se dire qu'on a réussi parce que on a des services extrêmement engagés. On a eu 3 DGS pendant ce mandat, Christine Calcaterra, on a eu Isabelle Gauthier et nous avons maintenant le privilège d'avoir Delphine Simon. Et à chaque fois, nos DGS ont piloté des équipes qu'on peut saluer parce que si aujourd'hui on peut se dire qu'ensemble on a réalisé de très belles choses, c'est aussi parce qu'on a des compétences très engagées. Donc Delphine, je vous laisse au nom du conseil municipal remercier toutes les équipes. Et moi, à titre personnel, je voudrais dire un mot particulier à mon équipe majorité, vous dire que avec vous, je pense qu'on a réalisé de très belles choses, qu'on a surmonté des tas de situations qu'on n'avait pas imaginées. Et on a su se parler, on a su élever le débat pour ne jamais rentrer dans les polémiques, ne jamais s'arrêter à la difficulté, mais je pense essayer de donner à la population ce que doivent être les élus dans leur quotidien, à savoir être ceux qui s'engagent sur la durée, qui savent relever les défis, mais qui savent laisser à la démocratie la communication et la qualité des échanges qui font qu'ensemble, on a tout intérêt à poursuivre l'aventure. Et je peux vous dire que pour celles et ceux qui vont prolonger leurs défis sur les 6 prochaines années, ils seront nourris de tout ce qu'on a fait ensemble pendant ces 6 années. Et je voudrais enfin vous dire que j'espère que chacun d'entre vous, vous repartez avec une petite part de réussite. Parce que sans ce chacun d'entre vous, le collectif n'existe pas. Donc un par un, vous avez fabriqué la réussite et tous ensemble, nous l'avons déployé avec une efficacité qui, je pense, les Joannaises et les Joannais sauront nous reconnaître pour la suite le fait que Saint-Jean a su se transformer à la hauteur des défis. Donc pour tout ça, je vous remercie et n'oubliez pas tout ce que vous avez fait les uns et les autres parce que c'est vraiment un moment extraordinaire que d'avoir su s'engager pour la collectivité et avec ce désintérêt et cette qualité de service pour le plus grand nombre. Je vous remercie.
Je peux renvoyer également les remerciements. On peut collectivement également partager, te renvoyer le remerciement, ta capacité effectivement également à piloter l'équipe d'élus, pas toujours simple, l'équipe des agents, d'être là, d'être présente, qu'on supporte tous ensemble parfois nos points de vue divergents, nos humeurs divergentes. Et c'est toi effectivement à la manette qui également mener cette équipe pour qu'elle en arrive aujourd'hui avec la fierté de tout ce qu'on a pu faire au cours des 6 dernières années ensemble. Il faut le dire aussi.
Merci. Avec respect, la bienveillance aussi, c'est très important. Merci. Alors, vous savez bien qu'on finit jamais à un moment où on est bien ensemble sans essayer de trinquer. Trinquons. Enfin, parce que jusqu'ici, nous avons réussi à amener quelques bouteilles et des verres pour partager.